Bonsoir à tous. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir être présents ce soir et de vous présenter notre projet de recherche que nous menons depuis plusieurs années, qui vise à travailler sur les violences en ligne, tout spécialement avec une focale sur le cyberharcèlement. Avant même de commencer et de rentrer dans le cœur du sujet, nous souhaiterions d'abord vous avertir. Parler de cyberharcèlement de manière théorique n'aurait pas vraiment sens parce que ce n'est pas la réalité des faits. Ce qui fait que même si nous allons conceptualiser, essayer de porter un cadre théorique et méthodologique qui permette de mieux appréhender la protéiformité de ces pratiques de cyberharcèlement, n'en demeure pas moins que ça ne ferait pas sens si nous ne montrions pas des exemples concrets. Montrer des exemples concrets peut parfois surprendre, peut parfois étonner, peut parfois violenter. En raison du parcours personnel de chacun, parfois on est apte à l'appréhender et parfois ce n'est pas le cas. Donc comme nous allons montrer des photos, des images, des conversations qui vont venir corroborer notre travail scientifique, nous trouvions normal de prendre certaines dispositions. Et d'ailleurs, on ne vous en tiendrait pas rigueur. Mais si jamais la thématique est trop sensible, si jamais le sujet va vous bousculer, vous bouleverser, sentez-vous libre de sortir. En tout cas, avant de commencer cette présentation, il est normal de vous informer que quand on parle de violence en ligne, on va le faire avec une certaine praticité. Donc on va vous montrer des violences en ligne. Ceci étant dit, personne ne sort. Bon, rentrons dans le cœur du sujet. Je suis vraiment ravie de vous voir, d'autant plus que ces pratiques de cyberharcèlement, moi je suis enseignante-chercheuse à l'université et très régulièrement mes étudiants me permettent de découvrir de nouvelles pratiques. Donc je sais que c'est une réalité qui vous touche. Et au gré des rencontres que nous avons pu avoir, on s'est rendu compte qu'entre le travail scientifique, le travail de terrain et puis le travail que l'on peut mener au renseignement criminel de la gendarmerie nationale, parfois il n'y a qu'un pas qui peut nous permettre de formaliser un projet, et notamment un projet de recherche. Au détour, souvent on prend cette anecdote. Je sais, tu ne voulais pas qu'on parle de ça, mais en même temps, c'est la réalité. Un jour, Jean-Christophe, donc sur votre droite, qui est cyber-enquêteur, est venu à mon université, dans mon département, pour expliquer ce qu'était la responsabilité pénale à mes étudiants qui avaient laissé des commentaires incitant à la haine, et notamment incitant au viol. Sous couvert de blagues grivoises, n'en demeure pas moins que ben, quand on est majeur, on a une responsabilité pénale face aux propos qu'on peut tenir en ligne. Jean-Christophe est venu à mon université, explique à mes étudiants, comme on pourrait le faire au cours d'une intervention, qu'il faut parfois se méfier de nos blagues, de nos commentaires, et même s'ils ont une visée divertissante, perçue par des extérieurs, perçu même par les victimes, ce n'est pas forcément vécu de la même manière. Il vient, on prend un café lyophilisé à l'université parce que je ne sais pas si elle est sec, vous avez de bons cafés. Nous, en tout cas, Bordeaux-Montaigne, il ne faut jamais prendre du café lyophilisé. On prend ce café avec Jean-Christophe et on commence à se rendre compte qu'on aurait des thématiques de travail en commun. Lui, il travaille sur toutes les cybercriminalités à la gendarmerie nationale. Et puis, moi, je travaille sur de l'analyse de discours. Mon travail, c'est les mots que vous allez utiliser, l'ordre des mots que vous allez utiliser, les mots que vous n'allez pas utiliser, les champs lexicaux que vous allez convoquer, la syntaxe, la grammaire, tout cela, vous pensez dire quelque chose. Puis, il y a des universitaires comme moi qui vont travailler sur... des logiciels informatiques vont faire de l'analyse de discours et vont se rendre compte que ce que vous allez dire Finalement, vous pensez dire quelque chose, mais cela relève également, ou cela peut révéler également, d'un discours implicite. Et moi, mon travail, c'est d'analyser les discours implicites. Ce que vous ne savez pas que vous êtes en train de dire. On parle avec Jean-Christophe et on se dit, ce serait incroyable, incroyable, si un jour, les violences en ligne auxquelles il peut être confronté peuvent être étudiées par un groupe de recherche à l'université. Voilà, ça serait bien. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait la possibilité de répondre à un appel à projet en interne. Et c'est comme ça qu'est né notre projet de recherche, de manière très, très exploratoire. Nous, on est de Bordeaux. Donc on s'est dit, tiens, et si on regardait un petit peu les violences en ligne du côté de Bordeaux? Ça, c'était la première étape du projet. Moi, je peux y aller toute la conférence toute seule, mais on est trois, ça serait bien. Ben je peux m'asseoir aussi.
Je continue.
Oh oui, avec plaisir.
Bon, ok. Bonjour, je suis le lieutenant-colonel Barlatier. Et donc, vu qu'on allait aborder la partie nationale du projet Cancer de la Provence, je vais prendre la parole. À la base, moi je vais vous raconter mon point de vue, Marlène a raconté le sien. Mon métier, c'est de faire du renseignement criminel. Le renseignement criminel, c'est quoi ? Vous l'avez vu sur l'une des premières slides, c'est comprendre en vue d'agir, c'est-à-dire comprendre comment fonctionne la criminalité, comprendre quelles sont les causes qui produisent quels effets. Vous constatez des vols de véhicules, c'est quoi le business model qui est derrière ? Ces voitures, elles partent où ? Est-ce qu'elles partent en pièces détachées ? Est-ce qu'elles partent entières ? Est-ce qu'elles sont utilisées sur d'autres crimes ? Ou est-ce qu'elles partent pour du business dans les pays de l'Est ou dans d'autres pays ? Est-ce qu'elles sont recyclées sur le territoire national ? En fait, le travail de mes analystes, c'est de faire ça. Et ça, sur tous les champs de la criminalité. Atteinte aux personnes, traite des êtres humains, dérive sectaire, violence dans la société, les féminicides, par exemple. Atteinte aux biens, cambriolage, trafic en tout genre, tabac, stupéfiants, trafic de médicaments. On travaille également sur la cyber, les atteintes au système de traitement automatisé de données, les rançongiciels, fuite de données sur Internet. On travaille également sur la délinquance économique et financière. Et puis on travaille également sur les groupes criminels organisés, quels qu'ils soient. Et donc au final, notre travail est un travail de compréhension. Et à ce titre-là, le travail de compréhension de l'analyste, c'est un travail qui n'est pas si différent du travail de l'universitaire. Puisqu'en fait, finalement, l'analyste, comme l'universitaire, ce sont des travailleurs du savoir. C'est-à-dire des gens qui cherchent à comprendre avec leur propre méthode en fonction de leur objet de recherche. Et là, finalement, on peut convoquer deux choses. Le renseignement criminel, c'est d'abord basé sur une théorie qui date du début des années 2000, qu'on appelle l'intelligence-led policing, donc la police guidée par le renseignement. Elle part du principe que jusqu'à présent, les forces de l'ordre étaient plutôt dans une posture réactive, c'est-à-dire que vous déposez plainte, on ouvre une enquête, vous nous appelez, on intervient. Mais très rarement, on cherche à comprendre les phénomènes pour lutter contre les causes. Et depuis 20 ans, donc, il y a cette doctrine qui est née d'un criminologue anglais, qu'on appelle l'ILP, Intelligence-Led Policing, qui est apparue et que de nombreuses forces de police dans le monde essayent de mettre en œuvre de chacune à leur manière. Mais à côté de cette politique policière de l'Intelligence-Led Policing, il y a une deuxième politique policière qui est très intéressante et qui est apparue dans les années 70, qu'on appelle l'Evidence-Based Policing, c'est-à-dire la police fondée sur les éléments probants de la recherche. Jusque dans les années 70, on faisait les choses de façon empirique. Voilà. Mais vous savez très bien que l'empirisme, c'est sans doute pas le meilleur levier de performance. En revanche, à compter des années 70, des sociologues, des psychologues, d'une manière générale, des chercheurs dans un domaine tout à fait interdisciplinaire, ont commencé à travailler pour évaluer ce qu'était la performance des processus d'enquête. Par exemple, à quoi sert une patrouille de police ? Est-ce qu'elle a une force de prévention sur la délinquance ? C'est une expérience qui a été conduite dans les années 70 à Kansas City. Pendant un an, on a pris la ville, on l'a divisée en trois, un groupe témoin, un groupe où on supprime les patrouilles, un groupe où on les multiplie par trois. Et au bout d'un an, on s'aperçoit d'une chose étonnante, c'est qu'il n'y a aucune variation de délinquance sur chacun de ces trois secteurs. En réalité, les patrouilles ne servent à rien. Du moins, les patrouilles non orientées ne servent à rien. Et ça, en fait, c'est tout à fait caractéristique de ce qu'est l'evidence-based policing, c'est-à-dire le fait de nous confronter aux chercheurs qui va nous apporter un retour sur l'efficacité de nos pratiques. Alors, ces bases étant posées, maintenant, on peut en venir au projet cybernétique. En tant que chef d'unité de renseignement criminel, ma vocation, c'est de chercher à comprendre avec les moyens qui me sont donnés. Mais en fait, j'ai une ressource extraordinaire, c'est de pouvoir travailler avec des chercheurs. Ces chercheurs, qu'ils apportent une vision particulière en sciences de l'information et de la communication, par exemple, ou alors une technicité particulière, parce que nous travaillons avec à l'ESSEC en matière de statistiques, nous permettent de voir la donnée sous un angle qu'on ne saurait pas voir nous-mêmes. Et ça nous permet également d'importer des gens d'une autre culture, de savoir, dans la compréhension des phénomènes criminels. Et donc de sortir des biais qui sont propres aux analystes, qui sont souvent des gendarmes, et qui portent en fait avec eux tout leur univers culturel dans les analyses qu'ils produisent. Alors, de fait, voyant arriver des chercheurs vers moi, je suis naturellement intéressé. Et surtout quand il s'agit de travailler sur des thématiques comme le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, vous pouvez trouver ça dans la donnée gendarmerie, il y a des gens qui déposent plainte. Mais c'est quelque chose qui est assez imparfait. D'une part, parce que toute personne victime de cyberharcèlement ne dépose pas plainte. Quelle est votre propension à ce que vous, peut-être certains d'entre vous ont été victimes de cyberharcèlement, tout le monde n'a pas déposé plainte ici. Voire peut-être 10% d'entre vous ont déposé plainte. Ça veut dire que quand j'analyse les données des plaintes, gendarmerie et police sur le cyberharcèlement, il me manque 90% de la donnée. Et ça, ça crée un biais d'analyse qui est quand même assez considérable. Le chercheur vient combler ce biais d'analyse, puisqu'en fait, il va regarder la donnée et il va regarder les phénomènes sous un angle qui est assez différent. Alors, de fait, travailler sur le cyberharcèlement, ce n'est pas travailler sur quelque chose qui est totalement virtuel, c'est travailler sur quelque chose qui est bien réel, puisqu'en fait, le harcèlement, bien souvent, se produit entre des gens qui se connaissent. Peut-être entre vous. Mais le harcèlement, il se produit aussi entre des gens qui ne se connaissent pas. Vous allez sur jeuxvideo.com, on va vous insulter. Ah oui. vous allez vous faire insulter, ou vous allez avoir quelqu'un qui va faire une insulte générique contre une catégorie particulière de la population. Au final, qui va aller déposer plainte pour ça? Et malgré tout, une infraction a été commise. Et donc, pour analyser ces phénomènes dans leurs causes et leurs conséquences, pour établir des typologies, des modélisations, on a besoin de traiter la donnée avec les chercheurs. C'est donc le travail qu'on a fait avec l'Université Bordeaux-Montaigne. Donc, c'est quelque chose qui est un projet qui est remonté, comme vous l'a dit Marlène, du terrain, d'un besoin du terrain, d'un lien entre un chercheur et un professionnel de la gendarmerie qui se connaissent, donc un praticien de la sécurité et un praticien de la recherche. Et ensuite, un sujet qui est monté jusqu'au niveau national, parce que finalement, analyser ça uniquement sur Nouvelle-Aquitaine, c'est une problématique qui concerne tout le monde et qui est attachée avant tout aux gens qui s'expriment en langue française. Je pense que c'est plutôt le socle linguistique qui est important. Voilà. Donc, moi, ce que j'avais à vous dire sur l'étiologie de ce phénomène et de ce projet de recherche. Et au final, on va vous exposer les découvertes qui ont été faites à l'occasion de ce projet.
Bonjour à tous. Peut-être pour compléter un peu ce que vient de dire le colonel, pour bien comprendre l'utilité du trinôme, c'est que moi, je suis au plus près du terrain. Je suis technicien d'identification criminelle et numérique. Je suis, sans prétention aucune, le médecin légiste qui va pratiquer, en quelque sorte, l'analyse de vos différents périphériques lorsque vous êtes victime ou, malheureusement, lorsque vous vous rendez auteur d'une infraction en lien avec la cybercriminalité. Donc, le colonel vous a fait tout le spectre, effectivement, de toutes les infractions possibles et imaginables dans le cadre de la cybercriminalité. On considère que c'est l'ensemble des exactions qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale lorsqu'elles sont soit liées, soit facilitées avec les nouvelles technologies. Donc nous, avec Marlène, on a décidé de faire le focus sur toutes les violences en ligne. Le colonel précisait, le cyberharcèlement, malheureusement, on n'a pas encore de définition qui font consensus. C'est d'où mon problème. Moi, ça fait 20 ans que je fais de la cybercriminalité, ça fait 20 ans que j'analyse les téléphones, ça fait 20 ans que j'analyse les ordinateurs. Je vois l'émergence de tous les phénomènes, de toutes les exactions possibles et imaginables qui sortent. L'invention qu'ont les auteurs pour commettre des infractions au gré d'un nouveau réseau social qui sort, enfin voilà, des exactions. Et on n'a pas suffisamment, surtout sur Bordeaux, on est le premier laboratoire en termes de criminalistique, on n'a pas suffisamment la hauteur pour comprendre les phénomènes. Et donc c'est là où L'heureuse rencontre avec Marlène nous a permis de pouvoir prendre de la hauteur, se poser un peu. Marlène a apporté un regard très scientifique sur la donnée que moi, je me permettais de collecter avec l'autorisation du procureur général, de lui soumettre et ensuite d'analyser directement au niveau central avec l'analyste criminel qui est le colonel.
C'est vraiment un partenariat inédit qui a été monté entre nous, une analyse qui nous permet surtout à un moment donné de produire concrètement des livrables qui sont censés peut-être sensibiliser différemment à ce que peuvent être ces pratiques de cyberharcèlement. On a un livre qui sort cet été ou incessamment sous peu, dans lequel on a recensé 40 pratiques de cyberharcèlement. 40 pratiques qui chacune comportent des mécanismes de violence bien particuliers. Un swatting, ça ne se déroule pas. Un swatting, ça ne s'exécute pas. Un swatting, ça ne performe pas auprès d'une victime de la même manière qu'une dick pic. Ah, ça y est, j'ai votre attention. Si je vous demande combien de personnes ont déjà reçu une dick pic ou ont été amenées à voir une dick pic non consentie sur son téléphone portable, est-ce qu'on pourrait lever la main les personnes qui ont déjà été amenées à recevoir une dick pic non consentie? Une dick pic, pour les gens qui ne savent pas, généralement c'est une photo des parties génitales d'un monsieur qui est très content et qui le montre. Combien ont déjà reçu une dick pic?
Combien ont envoyé une dick pic?
Répondez pas. Ils sont gendarmes. Alors, on a des livrables. Moi, je suis scientifique, je peux tout entendre. Eux, non. Alors, dans les livrables que nous avons, on a un livre blanc qui explique chacun des mécanismes de violence. Pourquoi un swatting peut vous arriver si vous êtes sur Twitch? Pourquoi une dick pic peut vous arriver? Oh, le swatting, faut-il que nous expliquions? Et là, on va rentrer dans le cœur du problème. La terminologie. Si je vous parle de swatting, certains vont comprendre. Si je vous le traduis en français, ça n'aura pas la même portée. Parce que je vais vous le traduire par canular téléphonique. Mais en fait, un canular téléphonique, il y a une dimension divertissante, il y a une dimension un peu légère. Le cas de swatting dont on parlait la dernière fois, Jean-Christophe, toi, les cas de swatting que tu as traités, la dernière fois, quelqu'un est décédé.
Oui, alors je ne l'ai pas traité personnellement, ouais. Voilà. Tout le monde sait ce que c'est qu'un swatting ou pas? Très brièvement, c'est le coup de la pizza. Est-ce qu'il y a des streamers parmi vous, des gamers? Pas, ok.
Aucun gamer? Ah.
Voilà, c'est le coup de faire appeler les forces de l'ordre. Alors, en sachant qu'on s'est énormément professionnalisé au sein de la gendarmerie, malheureusement, dû aux événements, des attentats et tout ça. Donc maintenant, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, c'est des véritables golgothes. Et quand ils rentrent dans une maison, état de prévarication oblige, ils ne font pas de détails. Ils rentrent, ils sécurisent. Dans le process de sécurisation, bien évidemment, ils vont aplatir tout ce qu'ils peuvent aplatir et tout ça. Le problème, c'est qu'il est très facile maintenant, avec les nouvelles technologies, de se faire passer pour quelqu'un d'autre, ce qu'on appelle une usurpation téléphonique, et donc de téléphoner à une force de gendarmerie, en disant « Voilà, je suis Monsieur X, j'habite 3 rues de la Poupée qui tousse, je suis en train de massacrer ma petite sœur. » Donc, les forces de l'ordre interviennent au domicile précité, ils font irruption dans la maison, ils vont tout sécuriser à la recherche de la petite jeune fille qui est malheureusement en train de se faire tuer, et ils s'aperçoivent que c'est un canular. D'où le mauvais anglicisme qui en sort, le canular téléphonique. On est loin du canular téléphonique, puisque effectivement, dans les derniers faits qui se sont passés sur Paris, une personne est décédée suite à une crise cardiaque. Voilà.
Quand les forces de l'ordre, elles rentrent avec perte et fracas parce que pour elles, il y a un danger immédiat, tout ceci est généralement filmé parce que la personne est en train de streamer. Donc vous avez une communauté qui assiste à l'arrivée des forces de l'ordre. Et de fait, ça peut être drôle pour la personne qui le regarde. En revanche, la personne qui le vit, c'est terrible. Et dans ce cas précis, c'était le père qui était en train de regarder, voyant le déferlement de violence, la montée d'adrénaline, a succombé à une crise cardiaque. Alors, je ne sais pas si on pourrait appeler ça un canular téléphonique. Je suppose que si on interrogeait la famille de cette personne décédée, ça serait difficile de le traduire par canular téléphonique.
C'est le père d'un journaliste. Vous pouvez regarder sur Internet, vous allez facilement retrouver les références.
Donc nous, on s'est dit, c'est vrai que... Il y a plusieurs pratiques de violences en ligne que l'on pourrait regarder avec une certaine distance. Mais chaque fois qu'une personne vient en gendarmerie pour déposer plainte, puisqu'on a eu accès à ces dossiers-là, à ces données-là, chaque fois que quelqu'un vient déposer plainte en gendarmerie, on se rend compte que ces pratiques, elles ne sont pas si anodines parce que réputationnellement, quand une vidéo de vous a été subtilisé, diffusé sur un site pornographique sans que vous n'ayez donné votre consentement, vous montrant dans un moment intime avec votre conjointe ou votre conjoint de l'époque, réputationnellement, quand votre nom a été donné, votre identité, votre numéro de téléphone, votre adresse mail, à chaque fois qu'on vous googlise, l'algorithme fait en sorte que le premier lien sur lequel on va tomber, ça sera cette vidéo pornographique. Et c'est vrai que, du coup, la pratique de cyberharcèlement, elle n'est pas si anodine que ça. Tout comme le canular téléphonique. La personne est décédée. Tiens, c'est pas si anodin que ça.
Juste par rapport au matériel matériel pornographique qu'on peut avoir, et il faut bien considérer que les victimes vivent toujours avec la crainte que le matériel, un jour ou l'autre, peut ressortir. Donc il peut ressortir dans 6 mois, il peut ressortir dans un an et demi, dans 2 ans. Le droit à l'oubli tel que le droit européen nous accorde, ça n'existe pas. Pour tout le matériel comme ça intime et tabou, il faut bien se dire que tout ça est disposé sur des serveurs, dans des pays exotiques, à la législation plus que permissive. Et c'est très compliqué pour nous, les forces de l'ordre ou les autorités judiciaires, d'aller directement effacer ce matériel-là. Voilà. Donc les victimes ont toujours cette crainte de se dire... Ok, dont acte, moi j'ai des victimes, l'auteur a été identifié, l'auteur est passé devant le tribunal. Le problème c'est que le matériel, on ne sait pas trop où il est et on sait pertinemment qu'un jour ou l'autre il peut ressortir.
Nous, le dernier cas que l'on a traité avec Jean-Christophe, de manière très empirique, hein, la jeune fille était mineure, on avait été informé parce qu'elle avait somatisé, elle avait été hospitalisée, elle avait somatisé, elle n'avait plus l'usage de ses jambes et elle en était à sa 3e TS. Tentative de suicide, pardon. Donc, à un moment donné, entre des pratiques de cyberharcèlement et puis la réalité des faits, quand on a commencé à parler avec Jérôme et Jean-Christophe, on s'est dit, tiens, ça serait bien si à un moment donné, on pouvait porter un regard scientifique. Combien il y a de pratiques de cyberharcèlement ? À partir de quand considère-t-on que c'est d'ailleurs une pratique de cyberharcèlement ? Et on s'est dit, reprenons la méthodologie scientifique qui finalement est commune entre l'universitaire et entre, moi j'appelle ça un chercheur, finalement un enquêteur n'applique simplement qu'une méthodologie scientifique qui permette d'objectiver la situation et de se positionner charge à décharge en fonction d'une situation délictuelle, criminelle. Et on s'est dit, reprenons les fondamentaux. Ok, on parle de plusieurs pratiques de cyberharcèlement. C'est quoi d'ailleurs le cyberharcèlement ? Puis là, un vide juridique, parce que quand on reprend, il y a un article de loi, article 222-33-2-2, et puis qui vous dit... alors là, il va y avoir un... Je suis myope et mes lunettes me servent de serre-tête. Donc j'essaye de lire d'ici. Messieurs, si vous voulez être force de proposition, c'est maintenant ou jamais.
Lire la définition ?
Oui, tiens.
Je pense qu'ils sont à même de pouvoir le lire. Le fait de harceler une personne par des propos ou des comportements répétés ayant pour objet et pour effet une dégradation de ses conditions de vie, se traduisant par une altération de santé physique ou mentale.
Cyberharcèlement, cyberharcèlement, alinéa 4.
Voilà.
Ce n'est pas la définition du cyberharcèlement. Nous, ce dont on est en train de vous parler, c'est le petit alinéa 4.
En vérité, il faut considérer que, fut un moment, il y avait un vide juridique. Il y avait beaucoup de gens qui se présentaient à la gendarmerie ou à la police en disant « voilà, je suis victime de ce qu'on peut considérer actuellement comme du cyberharcèlement ». Sauf que nous, on était bien en peine de pouvoir qualifier l'infraction. Et moi, je me souviens, je vous ai expliqué, ça fait 20 ans que je suis dans la cybercriminalité, 20 ans que je suis technicien. Je me souviens des premiers phénomènes de cyberharcèlement que j'ai eu à traiter. Et je me souviens encore des conversations avec le procureur de la République en lui disant « j'ai tel phénomène, comment on fait pour le qualifier ?» Ben, c'était violence volontaire. Voilà. Donc on prenait le premier article qui pouvait éventuellement correspondre au niveau légal, au niveau des éléments constitutifs et l'intention morale, l'intention de nuire à la personne, et on mettait ça violence volontaire. Donc il y a eu un vide juridique qui a été en quelque sorte remanié, simplement avec l'alinéa 4e. Donc lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication publique en ligne, par le biais d'un support numérique ou électronique. Et donc on considère, à tort ou à raison, voilà, que c'est du cyberharcèlement.
Moi, ce qui m'interpelle, je ne suis pas juriste, mais je suis citoyenne. Ce qui m'interpelle, c'est de me dire, bah, tiens, finalement, si on prend en compte cet alinéa 4, le commentaire haineux, l'insulte en ligne, bah, serait regardé au même prisme, finalement, que ma vidéo où j'ai eu un rapport sexuel avec mon ex-conjoint et qui, par vengeance, l'a diffusé sur un site pornographique en m'identifiant. Tiens, alinéa 4. Pourtant, ce n'est pas les mêmes répercussions sur ma vie. L'insulte en ligne qui m'aurait traité, je ne sais pas, je suis basque, qui m'aurait traité, par exemple, de parisienne, je l'aurais mal vécu, voilà. Mais la vidéo que l'on m'a dérobée, réputationnellement, ce n'est pas la même chose. Alors, on pose le cadre, on se dit très bien, juridiquement, on est positionné sur l'alinéa 4. Regardons ce que les scientifiques ont écrit. Et là, on se rend compte que c'est toujours la même définition qui date des années 70, des années 80, qui expose ce qu'est le cyberharcèlement. Donc, en principe, alors j'arrive pas à lire d'ici, mais on devrait avoir agressif, intentionnel.
Un acte agressif intentionnel perpétré par un individu ou un groupe d'individus, ça a son importance, hein, au moyen de formes de communication électronique de façon répétée à l'encontre d'une victime qui ne peut facilement se défendre seule.
Ben oui, mais de façon répétée. Moi, on m'a volé ma vidéo. C'est un exemple, hein, d'accord ? Oui, non, parce que je suis en train de me charger. D'habitude, je prends toujours quelqu'un à témoin, mais là, j'ose pas parce que pour peu qu'il y ait un mineur, ça me fait mal au cœur. Donc, je vais me charger, mais je n'ai pas vécu ça, heureusement. Mais imaginons ma vidéo où j'ai un rapport sexuel consenti, hein, avec mon ex-conjoint. Par contre, je n'ai pas consenti à ce qu'il diffuse notre relation sexuelle en ligne. Bon, de manière très bienveillante, il a déposé sur un site pornographique. Il a juste déposé une fois. Ce n'est pas un acte répété. Maintenant, ne demeure pas moins que la viralité a fait qu'elle a été téléchargée des millions de fois. Cette justification, scientifiquement, elle ne tient plus. Au regard de l'évolution des pratiques, de nos réseaux sociaux, de nos usages, de la façon dont on peut se servir d'Internet, des nouveaux lieux virtuels que l'on a investis, enfin, cette citation ou cette définition est complètement galvaudée. Ça ne correspond pas à la réalité des pratiques de cyberharcèlement que l'on constate aujourd'hui.
J'aime bien ton exemple de la personne qui prend l'avion. Je ne vais pas spoiler, mais si tu peux la ressortir.
Je t'en prie. Voilà. Là, pour le coup, c'est une histoire vraie. Et ce n'est pas moi, mais incroyable. Une histoire vraie, oui. Tu veux...
Non.
C'est gentil de me... j'ai oublié son nom. Elle était, pour replacer dans le contexte, elle faisait des RP dans une petite boîte, me semble-t-il. Elle était du côté de Londres. À resituer en contexte, hein, peut-être que j'enjolive, mais en même temps, je suis du sud-ouest, on ne serait pas surpris, ça ne serait pas la première fois. Elle est à Londres, et elle va rejoindre sa famille, me semble-t-il, en Afrique du Sud. Et au moment de prendre l'avion, elle fait une blague ségrégative extrêmement douteuse, qui était du style je vais en Afrique du Sud, j'espère que je ne vais pas attraper le sida, lol, ben non, je suis blanche. Le temps d'un vol, Londres, atterrissage en Afrique du Sud, le temps d'un vol, la force du collectif, la communauté, s'est insurgée en ligne. Elle avait quelques abonnés qui la suivaient. Elle est passée à des milliers d'abonnés sur son Insta, sur ses réseaux sociaux. La communauté a demandé son renvoi. L'employeur a de fait décidé de la renvoyer. Elle n'avait toujours pas atterri. Tout ça s'est passé le temps du vol. Trump s'en est mêlé, a même créé un hashtag avec le nom de cette personne pour dire « a-t-elle atterri encore, faut la virer ». Juste espace d'un vol. Elle est arrivée, elle a atterri. Il y avait même des internautes sur place qui étaient venus filmer sa réaction en live pour qu'on puisse voir en direct comment elle allait apprendre la nouvelle de son limogeage. Encore aujourd'hui, quand on la googlise, je vous donnerai le nom tout à l'heure, faut que je le retrouve, mais on retrouve très facilement la polémique encore en ligne parmi les premiers référencements. Encore aujourd'hui, quand on la googlise, c'est cette polémique à connotation raciste qui est associée à son nom. Et encore aujourd'hui, donc elle est redevenue célibataire et elle expliquait dans de nombreuses interviews que c'était impossible pour elle de rencontrer quelqu'un. Impossible, parce que à chaque fois qu'elle pouvait avoir une rencontre qui pouvait déboucher sur une relation intime, ben en fait, elle était associée à cette image de personne raciste. Juste le temps d'un vol.
Ça démontre bien la viralité des informations que vous pouvez formuler au travers de vos différents réseaux sociaux. Vous n'en maîtrisez plus du tout. À partir du moment où vous appuyez sur envoyer, vous ne maîtrisez plus rien. Et ça, après, c'est l'interprétation qu'on peut en faire et l'utilité que les autres peuvent en faire contre vous. Voilà. C'est surtout ça qui est très, très important à bien comprendre et le respecter. Enfin, oui et non. Faire très attention à ça, quoi.
Donc quand on fait le constat sur ces pratiques de cyberharcèlement, si on part avec des termes juridiques flottants et une définition scientifique qui l'est tout autant, et qu'est-ce que vous voulez qu'on comprenne? Moi, en tout cas, je ne comprends pas. Et je crois que la démarche de la gendarmerie était très, très saine. En tout cas, quand on en a parlé avec Jérôme, c'est de se dire, avant de proposer des solutions, des préconisations, ne faites pas ci, ne faites pas ça, si au moins on comprenait de quoi on parle. Donc nous, on a eu un mode de fonctionnement qui est très simple, que ferait n'importe quel chercheur. D'accord, on parle des pratiques de cyberharcèlement, formidable, ces pratiques de cyberharcèlement, qui en a parlé avant nous? Qu'est-ce qu'on dit nos confrères? Qu'est-ce qu'on dit nos collègues? Et on a fait ce que l'on appelle un état de l'art. On est allé récupérer 371 articles scientifiques. Un petit travail de fourmi. 371 articles scientifiques qui traitaient du cyberharcèlement. On a essayé d'identifier qui étaient les auteurs de ces articles, quelles étaient les universités, ou en tout cas, quels étaient les portages. C'est quoi? C'est des ONG? C'est des associations? Ou est-ce que c'est purement scientifique? Quels étaient les pays qui étaient le plus porteurs de ces études empiriques? Le champ disciplinaire. Est-ce que c'est en sciences de l'information et de la communication qu'il y a le plus d'études? On est allé chercher les années de parution, essayer de comprendre qui avaient été les personnes qui avaient servi d'échantillonnage, les méthodologies qui avaient été appliquées, quelles étaient les terminologies qui en étaient ressorties, tous les résultats, enfin... On n'était pas les premiers à se pencher sur la question. Mais avant de faire nos propres préconisations, qu'avaient dit les autres? Et là, c'était assez édifiant, parce que cet état de l'art, sur 371 articles, il y en a 345 qui avaient été simplement écrits par des universitaires. Je ne veux pas critiquer les universitaires, j'en suis une. Mais un universitaire, on est rare quand même à avoir une démarche de recherche-action profondément ancrée sur le terrain. D'habitude, un universitaire, on en retrouve beaucoup quand même en sciences fondamentales. Tirade bibliothèque, qui ouvre des ouvrages, qui vont lire des articles, voilà, qui parle avec d'autres chercheurs et qui n'ont jamais quitté les bancs de l'université. Moi, je trouve que pour parler de cyberharcèlement, les universitaires n'ont pas un savoir inné non plus. Et quand on regarde sur ces 371 articles, eh bien, il y en a 12 uniquement qui ont eu notre démarche de travail. C'est-à-dire, la gendarmerie, elle a la donnée. Moi, je peux la théoriser, mais je n'ai pas la donnée. Enfin, les dick pics, moi, je ne les stocke pas. Ou alors, j'aurais un problème. Bon, vous les stockez, mais c'est parce que les dossiers sont instruits, vous voyez ? Donc, je veux bien théoriser comme une universitaire, mais moi, je n'ai pas que des vidéos de revenge porn à la maison. Ou alors, j'ai vraiment un problème. Et puis, dans ces 371 articles, y a 14 organismes, associations, ONG, qui ont commencé à travailler sur cette donnée. Moi, je dis 12 qui confrontent la théorie au terrain, ça ne fait pas beaucoup quand même. Et je me dis, tiens, il y a peut-être un biais scientifique. Alors, d'où sortaient la plupart de ces articles scientifiques? Encore une fois, ils n'étaient pas français. La plupart, c'était une approche anglo-saxonne. Les Américains, les Canadiens, les Anglais et la Turquie. Alors, la Turquie, on s'est posé la question de se dire, pourquoi la Turquie, elle est très, très investie sur la thématique des pratiques de cyberharcèlement? Et la Turquie, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'articles qui étaient associés au code d'honneur, des crimes qui avaient été commis en raison des codes d'honneur. Donc on se dit, très bien, alors on n'est pas beaucoup à faire des itérations terrain-science. En France, on ne se démarque pas sur le sujet. Regardons les champs disciplinaires. Qui est le plus à même à parler de ces résultats? Et on s'est rendu compte que dans les disciplines, en fait, il y avait deux champs disciplinaires qui ressortaient. La psychologie ou les sciences de l'éducation. Pas la crimino, pas les sciences de l'information et de la communication. À chaque fois, c'est des psys qui vont venir vous parler des conséquences pour les victimes. Ou alors des chercheurs en sciences de l'éducation. Donc, qui vont vous parler des pratiques de cyberharcèlement en contexte scolaire. Là, on se dit, il y a encore un biais scientifique, parce que, très bien, on parle en contexte scolaire, mais ça veut dire on évince un nombre de pratiques de cyberharcèlement, et tant mieux. Mais il y a plein de pratiques de cyberharcèlement qui ne concernent pas les mineurs. Chantage à la webcam. Typiquement, je prends ça. On peut déjà profiler, il y a une figure idéale typique des victimes de chantage à la webcam. Elle s'appelle Monique, elle a 59 ans. Oh, même, on va basculer sur du caricatural, mais c'est des profils qu'on peut retrouver. Il s'appelle Roger. J'espère qu'il n'y a pas de Roger dans la salle. Il s'appelle Roger, 72 ans, veuf. Et Roger, bizarrement, il est tombé amoureux sur Internet. Vanessa, oui, on aurait pu douter, Vanessa, 33 ans, surprenant qu'elle tombe amoureuse de Roger. Mais Roger, il y a cru. Puis Roger, il s'est vraiment laissé aller. Roger a partagé ses sentiments, a même partagé son compte en banque, Roger. C'est simplement un abus de faiblesse. Ça, les sciences de l'éducation, elles ne vous en parlent pas de ces pratiques-là. Quand on continue les biais scientifiques, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de productions dans les années 2012, 2013-2014. On se dit, mais mince, en 2023 ou en 2022-2021, ça n'existe pas, les pratiques de cyberharcèlement. 2012-2013-2014, c'est la montée en puissance de Insta, Snapchat, et il m'en manque un troisième que j'ai plus. Ouais, peut-être Facebook, oui. Et depuis, c'est pas que les chercheurs, c'est pas qu'il n'y a plus de pratiques de cyberharcèlement, c'est que les chercheurs s'y intéressent pas. Autre biais scientifique, à chaque fois, l'échantillonnage, c'est qui ? C'est des étudiants. C'est du scolaire. Autre biais scientifique, la méthodologie utilisée. Quand on veut faire une analyse sur les pratiques de cyberharcèlement, on fait un questionnaire. As-tu été victime de cyberharcèlement ? Oui, non. As-tu subi un commentaire haineux ? Oui, non. Ah, mais 75% des personnes dans la salle ont déjà été victimes de commentaires haineux. Enfin, une pratique de cyberharcèlement, c'est singulier. Ça rentre dans un contexte particulier. Généralement, d'ailleurs, elle œuvre pas toute seule. Vous êtes victime de différents chefs.
C'est l'essence même d'une enquête judiciaire. Dès lors que vous déposez plainte, il y a une enquête qui est faite. Et donc, on va prendre l'environnement, on va prendre l'auteur, bien évidemment, mais on va prendre également la victime. Et là, nous, ce qu'on a vu avec Marlène, et malheureusement, on s'est retrouvé bloqué par rapport à une subtilité judiciaire, c'est qu'on ne peut pas avoir connaissance des archives d'une affaire judiciaire si l'affaire n'est pas jugée définitivement et que les droits de recours sont éteints. Donc, ce qui fait qu'on a les procédures 3, 4, 5 ans après, et c'est des procédures papier, ni plus ni moins. Donc on avait tout, plein de problèmes qui venaient du fait de l'ossérisation de la procédure, du fait de l'autorisation du procureur général, du fait de l'identification des procédures qui nous intéressaient. Quand bien même moi, j'avais la matière sur mon bureau, je ne pouvais pas l'utiliser parce que je suis soumis au secret de l'instruction, au secret professionnel et tout ça, et je ne peux qu'en référer au procureur général. Et pour autant, pour revenir par rapport à ce que disait Marlène, c'est dommage parce que dans les procédures, on a tous les éléments qui sont essentiels pour Marlène pour analyser une situation. Et on s'est même aperçu, par exemple, on a les observations des avocats au crayon, qui étaient d'une richesse incroyable.
Alors là-dessus, peut-être un petit point. C'est là où on a la connexion entre l'analyste et le chercheur. C'est comment un chercheur qui a les capacités de produire du savoir, mais qui n'a pas forcément la matière, peut rencontrer les forces de l'ordre qui ont la matière, mais pas forcément la capacité de produire du savoir.
Ou le temps.
Parce que la capacité... ou la finalité, en termes de compréhension, puisque finalement, quand vous êtes dans une enquête, vous traitez d'un cas particulier, où vous faites le lien pour caractériser une infraction particulière entre un fait et des individus spécifiques, mais vous ne faites pas une analyse du phénomène. Et au final, au sein de la gendarmerie, le directeur général a signé une circulaire, qui est la 30053, qui est disponible sur Internet, au vu de l'exploitation des données opérationnelles à des fins de recherche scientifique. C'est-à-dire que la gendarmerie a accepté de mettre à disposition, dans certaines conditions de données, de protection des données à caractère personnel, dans certaines conditions dont a parlé Jean-Christophe, sur de protection du secret de l'enquête, à disposition du chercheur. C'est-à-dire qu'en gros, la mine d'or que nous constituons est à disposition des mineurs. Et là, en fait, s'établit une connexion qui est typique de ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire d'une police guidée par les éléments provenant de la recherche.
Pour finir sur ce cadrage, dans 291 cas, on parle de cyberbullying. Ça veut dire en contexte scolaire. Il n'y a que 9 articles qui vont parler de cyber harassment. Et là, moi je m'interpelle, je dis, eh ben voilà, c'est pour ça qu'on n'y comprend rien au cyberharcèlement. Il n'y a que des biais scientifiques. Si déjà on ne part pas avec le bon cadrage juridique, on ne part pas avec la bonne définition, on a plein de biais scientifiques, enfin, comment voulez-vous qu'on comprenne quelque chose aux pratiques de cyberharcèlement si on ne prend pas en compte des vraies composantes, à savoir la synchronicité, à savoir l'invisibilité, les caractéristiques propres aux écrits d'écran, le nombre de caractères, le registre purement émotif, la viralité, la dilution de la responsabilité. Enfin, il y a plein de composantes. Alors, je n'ai pas la prétention de proposer une définition.
En revanche, je suis relativement critique en me disant bah, c'est normal qu'on n'ait pas les moyens d'agir. Si déjà on ne comprend pas de quoi on parle, comment voulez-vous qu'on apporte une solution à des phénomènes qu'on n'appréhende pas ? Alors, on a rédigé plus d'une quarantaine de fiches pratiques où, à l'intérieur, on va étudier les mécanismes psychopathologiques, on va étudier le cadrage scientifique, proposer des définitions de manière à ce que ça puisse aider le renseignement criminel à diffuser ces informations aux personnes ressources en interne. Et on a réussi à créer une typologie sur l'analyse motivationnelle des pratiques de cyberharcèlement. Donc 40 pratiques, ça va évoluer. Le quotidien nous rappelle qu'il y a des pratiques de cyberharcèlement qu'on n'a pas encore analysées, qui vont venir se rajouter à cette typologie. Mais à l'intérieur, on a pu identifier en tout cas 5 grandes familles récurrentes dans ces violences en ligne. Le nerf de la guerre dans toute forme de criminologie, je pense que l'argent, le pouvoir, le sexe, on a un bon triptyque. C'est une valeur sûre. De la même manière, on va le retrouver sur les violences en ligne. Mais dans les violences en ligne, vous avez cette particularité que l'idéologique peut vous conduire à exercer des pratiques de cyberharcèlement sans que vous n'en mesuriez les conséquences ou sans que vous ne réalisiez forcément qu'il s'agit d'une intentionnalité cybermalveillante. Et puis après, vous avez également une famille de... Nous, on appelait ça le circonstancier. Vous êtes là au mauvais moment. Ouais, c'est bon, on était. Voilà, il y avait un flot de commentaires. J'ai rajouté le mien. Ça va, c'était pour rire, c'est pas bien grave non plus. Voilà. Le troll, oui, c'est juste pour polluer la conversation. Ça va. Le mauvais moment, mauvais endroit. Manque de bol, la personne a déposé plainte. Et vous êtes clairement identifié. Donc. On a décomposé cela. Et ce que je vous propose, alors la famille du sexe, on l'a gardée pour la fin, un petit peu la cerise sur le gâteau. Comme ça, on aura toute votre attention. Mais je vous propose de décomposer famille par famille certains exemples. L'argent. Pourquoi fait-on ou comment se matérialisent des pratiques de cyberharcèlement quand elles sont majoritairement motivées par l'argent ? Tout est poreux, hein. On peut être motivé par le sexe et l'argent en même temps, par exemple. Mais c'est vrai que vous avez des pratiques qui peuvent vous être familières.
C'est pas très visible, le cyberstalking ?
Vous avez jamais eu ça, des indices de... Peut-être que tu peux catégoriser...
Est-ce que ça vous parle, ça, foncièrement, le cyberstalking ? Moi, j'avais... Au tout début, une question, est-ce que toutes les différentes familles de cyberharcèlement qu'on a évoquées jusqu'à présent, vous avez vu les grandes familles, le profil idéologique et tout ça, est-ce que parmi toutes ces infractions, il y en a dont c'est votre préoccupation ? Pas du tout, on est d'accord. L'usurpation d'identité, c'est pas quelque chose qui peut éventuellement vous toucher. Je vous parle franchement, c'est pas une question piège, hein, c'est une question... que moi je me pose. Oui.
Oui.
Et il a compromis votre site internet ou il s'est simplement fait passer pour vous ? D'accord. Et vous le vivez comment ? Vous le vivez comment ?
Tant mieux.
Alors de lui-même, je pense qu'il ne va pas partir. Il faut faire un signalement. Voilà. OK.
Mais l'usurpation d'identité, alors c'est très intéressant parce que l'idée, ce n'est pas de vous faire la morale. Hein. Loin de là, moi, la première, j'ai beau en parler, j'ai beau savoir quels sont les mécanismes, les travers par lesquels les cybermalveillants peuvent exercer leurs exactions. j'ai encore de mauvais automatismes. Mais c'est un truc tout bête. Je ne sais pas si vous, vous le faites. Peut-être pas. Mais peut-être que oui. Vous avez des boîtes mail. Si vous êtes amené à voyager à l'étranger, peut-être avez-vous eu ce réflexe de photocopier ou de scanner, ou faire un screen de votre pièce d'identité que vous vous êtes envoyé dans votre boîte mail. Parce que comme ça, si vous vous faites voler votre pièce d'identité à l'étranger en plein voyage, c'est pas grave, vous pourrez quand même aller à l'ambassade récupérer ou montrer ou attester de votre identité. Même sans voyager, est-ce que en vous inscrivant à l'université, on vous a pas demandé de faire parvenir un dossier complet ? Pièce d'identité, carte vitale. Si c'est le cas, levez juste la main. Est-ce qu'il vous est arrivé d'envoyer par mail ?
D'accord. Les impôts de papa, maman.
Avez-vous pris soin d'effacer les messages que vous avez envoyés ? Ben, moi, je ne l'ai pas fait. Il suffit simplement. Votre prénom, c'est ? Paul. Paul. Bon, là, c'était pas grave. C'est vrai que c'est rigolo s'il poste des trucs un peu bizarres. Mais Paul, imaginons qu'il rentre sur votre boîte mail. Et en fait, il va avoir accès à votre pièce d'identité, à votre carte vitale. Et rien qu'avec votre pièce d'identité, il peut ouvrir, dans l'heure qui suit, une dizaine de microcrédits. On n'y pense pas, mais avoir par sécurité sur sa boîte mail sa pièce d'identité, il suffit que quelqu'un rentre sur votre boîte mail, se procure votre pièce d'identité, usurpation, ça prend des années et des années. Bien souvent, c'est dramatique à pouvoir prouver que la personne qui a ouvert ses comptes en banque, ce n'était pas vous. Ben oui, mais il y avait votre pièce d'identité, le contrat a été signé en ligne. Tout ça parce que vous avez votre pièce d'identité dans votre boîte mail. On n'y pense pas. Hein. Alors, dans votre cas, Paul, c'est vrai que ça pouvait être drôle. Mais une boîte mail, une pièce d'identité...
Quelle est la parade à ça ?
Oui.
Très bien. Ça, c'est le double effet qui se coule, c'est très bien. Mais simplement le fait d'envoyer comme ça une photocopie de la carte nationale d'identité, les impôts des parents, un justificatif de domicile et tout ça, on en demande de plus en plus, on vous en demande de plus en plus et on va vous en demander de plus en plus. Quelle est la parade à utiliser ? En sachant qu'on a déjà trouvé malheureusement le contraire. Mais bon, sérigraphier simplement le document.
Oui, là-haut.
Et vous mettez... Oui, j'ai pas vu. Voilà, la date, voilà, demandée par les SEC en date du crack.
Pas de réponse.
Pas personnel, Paul, enfin voilà, non, ça, voilà. Simplement personnalisé avec une petite sérigraphie juste derrière tous les documents que vous envoyez comme ça. Et si malheureusement, parce que ce que Marlène n'a pas précisé, c'est que ça, c'est valable à partir du moment où effectivement sa boîte mail n'est pas sécurisée suffisamment par un mot de passe robuste, c'est combien de caractères un mot de passe robuste ?
Il y a des chances que vous n'ayez pas la bonne réponse.
Ouais, hein. C'est sûr. Préconisation de la CNIL, on est sur 14 caractères maintenant. 14 caractères alphanumériques. Il faut que ça soit complètement inintelligible. D'accord ? Il faut surtout que ça ne vous corresponde pas. Voilà. Il faut que ça corresponde à une sorte de méthodologie qui vous est propre, personnelle. Un secret, dès lors qu'il est partagé avec une autre personne, ce n'est plus du tout un secret. Donc votre mot de passe, vous le gardez bien. Et je vous en remercie. Double authentification. Ayez ce réflexe. Vous êtes jeune. Ayez recours dès maintenant, dès aujourd'hui, à la double authentification. Moi, je peux vous donner, je m'en vante régulièrement, je ne peux pas parce que ça répond à une méthodologie qui m'est propre. Si je vous donne mon mot de passe, vous allez pouvoir connaître tous les mots de passe que j'utilise dans ma vie virtuelle. Mais je peux très facilement vous donner mon mot de passe Google, Gmail. Très honnêtement, je m'en fous. J'ai toutes mes parades, double authentification et tout ça qui font que mon adresse Gmail, avec toutes mes pièces d'identité à l'intérieur et tout, sont suffisamment sécurisés.
Moi, avant de connaître Jérôme et Jean-Christophe, c'était bien pratique, j'utilisais le même mot de passe pour tous mes codes. Comme ça, j'étais sûre de m'en souvenir.
Quels sont ceux qui n'ont qu'un seul mot de passe pour tout ? Aïe, aïe, alors là, vous changez complètement. Complètement, non, mais...
Bon, on a faux, d'accord ? Oh là là.
Ça, le doxing. Malheureusement, on connaît tous maintenant le doxing. Ça fait 20 ans que le doxing existe, mais voilà, malheureusement, avec ce qui est survenu à Samuel Paty. Le doxing, c'est simplement l'art et la manière, enfin un peu comme le swatting. C'est quelqu'un a jeté son dévolu sur vous. Il vous a croisé dans la rue. C'est peut-être malheureusement le petit copain qui est assis à votre droite ou à votre gauche, derrière. Voilà. Il a l'intention de se renseigner sur vous. C'est ce que vous faites au quotidien. Hein. Là, si vous êtes en première année, forcément, c'est ce que vous avez fait. Hein.
Tu mets une bonne ambiance. C'est peut-être votre camarade à gauche ou à droite. Tout le monde se regarde. Vous allez sortir paranoïaque de cette conférence. Voilà.
Et il va se renseigner sur vous. Et il va regarder quelle est votre hygiène informatique. Enfin, ce n'est pas son objectif premier de regarder votre hygiène informatique. Mais simplement en se renseignant sur vous, votre compte Facebook, votre compte Messenger, votre compte ceci, où est-ce que vous avez été en vacances, comment vous vous êtes fait photographier, qu'est-ce que vous avez mangé avant-hier à midi, avec qui vous fréquentez et tout ça, il va s'apercevoir qu'en vérité, vous avez une très mauvaise hygiène informatique. Et s'il a des mauvaises intentions à votre rencontre, si vous ne lui avez pas dit bonjour hier matin et qu'il a été vexé, parce que c'était son premier jour et lui s'attendait à ce que vous lui disiez bonjour, mais éventuellement, il peut collecter comme ça bon nombre d'informations qui sont publics, mais qui vous sont très personnels, voire aller un peu plus loin dans la démonstration, et s'en servir après de façon à vous nuire. Pas immédiatement, peut-être dans une semaine, dans deux semaines, dans trois semaines, dans un mois, dans six mois. Voilà. Ce qui rend d'autant plus compliqué notre tâche, à partir du moment où il y a une infraction, il faut qu'on puisse contextualiser les faits, et il faut remonter généralement bien en arrière pour comprendre à peu près ce qu'il en est. Moi, j'ai le cas, mais mon premier fait de cyberharcèlement, je m'en souviens encore, c'est une jeune fille qui, pour des raisons diverses et variées, je peux le dire, habitait Belfort. J'étais à l'époque à Pau, 24 ans, travaillait dans une agence immobilière. Elle était venue, elle a déposé plainte parce qu'elle était harcelée, menacée de mort, suivie jusqu'à son domicile et tout. Et elle commençait foncièrement à avoir peur. Donc c'était son grand-père qui venait la chercher au travail, 24 ans, hein, qui l'a ramenée à la maison. Et elle a été partie de Belfort dans un contexte très particulier qui pouvait laisser penser qu'éventuellement, la personne toute désignée, c'était son ancien compagnon. Et en vérité, ce n'était pas du tout lui. On a mis 4 mois à identifier l'auteur. 4 mois. Et c'était simplement une mauvaise rencontre sur un mauvais site qui a fait que quelqu'un, un peu comme l'exemple que je vous ai sorti tout à l'heure, généralement c'est tout bête, hein, voilà. Tu ne m'as pas dit bonjour, je vais te pourrir la vie. Mais là, il s'était fait, pardon, un peu éconduire sur un réseau social. Donc il a dit, ok, si c'est ça, tu vas voir, je vais te pourrir la vie. Et au regard de toutes les confidences que cette jeune femme avait pu faire à ce monsieur-là, qu'elle ne connaissait pas, et qu'elle ne, je peux en témoigner, elle ne l'a jamais rencontré, hein, quasiment, parce qu'il n'y a pas eu jugement, voilà, il lui a pourri la vie pendant 4 mois. Voilà. Et il a suivi chez elle et tout ça. Enfin, voilà.
La cyberusurpation, Paul, typiquement, ce que vous avez vécu peut relever de la cyberusurpation. Alors, dans votre cas, ça n'a pas eu de répercussions gravissimes. Dans d'autres cas, microcrédit, des assurances qui ont été contractées, c'est énormément d'argent qui peut être détourné à votre insu et que vous devez rembourser parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de prouver. Vous avez piratage de données personnelles, fraude aux données personnelles. Il y a eu un exemple que je trouvais très intéressant qui s'est déroulé. C'était aux États-Unis, me semble-t-il, que c'était un hôpital en Pennsylvanie. Alors, les hôpitaux sont souvent concernés par ce genre de pratiques. Cet hôpital, c'était très intéressant parce que c'était le service oncologique qui avait été piraté. Et vous savez, les pirates se sont saisis des photos, notamment des photos des femmes qui, ayant eu un cancer, s'étaient rapprochées de ce service, étaient en passe d'avoir une reconstruction mammaire. Très bien, l'hôpital se fait dérober ses données, un chantage est exercé, une rançon est réclamée, l'hôpital ne veut pas payer et les pirates sont revenus vers l'hôpital en disant « Attention, c'est bien simple, si vous ne payez pas, nous on va diffuser les photos de toutes ces femmes qui envisagent une reconstruction mammaire avec leur nom, leur prénom. » Culturellement, Moi, je lis ça, je me dis, je ne sais pas, je suis victime d'un cancer, je suis en passe de me faire reconstruire artificiellement un sein. On vole ma photo où on voit mon torse qui a subi cette opération. J'aurais tendance à me dire, c'est dégueulasse. Mais en soi, ça va pas avoir une grande répercussion sur ma vie. J'entends que l'hôpital ne paie pas. Et en fait, les malades, les personnes qui sont passées par cet hôpital se sont insurgées. Il y a eu une polémique très, très vive. Et c'est là où je parle avec des Américains en leur disant, mais j'entends que ça soit ignoble d'avoir volé ces photos et qu'elles se sont touchées dans leur intégrité. Enfin, on est au cœur de l'intimité, il vous manque un sein, une part de féminité. J'entends toute la symbolique, le psychosociologique que derrière cela peut sous-tendre. Mais est-ce que c'est si grave que ça si ces photos fuitent? Et en fait, ces personnes m'expliquaient, en fait, c'est très, très grave. Parce qu'aux États-Unis, lorsque vous trouvez un emploi, souvent est afférent la sécurité sociale. Et un employeur ne prendra pas le risque d'embaucher quelqu'un, ou en tout cas aura certaines réticences à embaucher quelqu'un, s'il sait que derrière, potentiellement, des frais médicaux très importants peuvent être engagés, voire un arrêt maladie consolidé parce que... il y a eu une résurgence du cancer. Et moi, je n'avais pas mesuré ça. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a des millions et des millions qui sont brassés et qui, culturellement, peuvent avoir un véritable impact dans la vie des gens. Vous vous retrouvez sans travail, votre photo est diffusée, aucun employeur vous embauchera. Parce que sinon, financièrement, vous allez coûter beaucoup trop à l'assurance maladie qui sera prise par votre employeur. Derrière... vous avez également ce dont on parlait tout à l'heure. Roger, 72 ans, éperdument amoureux de Vanessa. Chantage à la webcam, la grande classique. Là, si le chantage à la webcam vous intéresse, scientifiquement, il y a de très très belles études qui ont été menées pour travailler sur toute cette notion de brouteur. Généralement sont en Afrique de l'Ouest, avec toute une organisation criminelle, des codes culturels, c'est vraiment anthropologiquement passionnant. Pour les victimes, c'est terrible, terrible. Ça, c'était la première dimension. Après, on vous a parlé du circonstancié, le swatting, le canular téléphonique. Jean-Christophe vous a donné l'exemple tout à l'heure, un canular téléphonique, mais enfin, qui peut conduire les gens à décéder. Ça peut être dramatique. Souvent, on appelle ça également se faire livrer des pizzas. Parce que quand vous êtes en pleine partie de jeu vidéo, le cybermalveillant, pour s'assurer qu'il va bien envoyer les forces de l'ordre au bon endroit, souvent va vous faire livrer des pizzas juste avant pour s'assurer que ça a bien sonné chez vous. Ça, ce sont des stratagèmes qui sont mis en place. Vous avez le flaming, la grande classique, un déferlement continu de haine. Nous, on a rencontré avec Jean-Christophe beaucoup de streameuses qui avaient une certaine notoriété. On a rencontré également des influenceurs qui nous disaient, en fait, sur un commentaire, on peut avoir 800 insultes qui suivent. Un jour où vous êtes disposé à aller réceptionner ces insultes, vous prenez une certaine distance, vous ne répondez pas. Puis il y a des jours, c'est plus compliqué. On a appris une mauvaise nouvelle, on est fatigué. Puis c'est le troisième jour où vous cessez de vous faire insulter. Et à ce moment-là, c'est bien compliqué à gérer. Et on a rencontré une streameuse. C'est incroyable parce qu'une streameuse qui a été profondément traumatisée par ce flot d'insultes. Il y a un cybermalveillant, quelqu'un qui est venu, qui a commencé à insulter son front parce qu'il trouvait qu'elle avait le front trop grand. Et donc, ils ont commencé à parler de pistes d'atterrissage pour les mouches. Puis ça a dégénéré pendant des jours et des jours. Ce jour, elle a une frange. Elle met une casquette et d'ailleurs, elle a décidé de ne plus montrer son visage à la cam.
Et elle a développé un complexe qu'elle n'avait pas avant.
Voilà, une phobie du front. Vous avez les trolls. Ils viennent juste polluer le débat. C'est le plaisir de créer, de susciter la polémique. On en a tous un dans l'entourage comme ça. Vous lancez la conversation et là, il vient vous piquer au cœur du sujet. Il se fait un peu l'avocat du diable. Ben, le troll, il s'amuse de la situation. Puis des fois, il peut être un petit peu malveillant. Donc le troll, il va créer plusieurs sites. Et d'ailleurs, il peut créer plusieurs comptes, des comptes qui vont s'opposer dans les modes de pensée, juste pour relancer le débat. Nous, on avait essayé de trouver un exemple assez concret de troll, et vous en trouvez beaucoup, notamment sur les articles en ligne. Alors, on a un grand journal de presse, nous, dans le Sud-Ouest, qui s'appelle Sud-Ouest. Il vous suffit de regarder n'importe quel sujet polémique. Alors, je ne sais pas, en ce moment, il y a quoi d'un petit peu polémique? Ah oui, oh, la baïa, on aurait pu faire un truc sur la baïa. On aurait pu réactualiser nos données sur la baïa. Là, on avait pris, c'était le coronavirus, parce qu'on sentait qu'il y avait un bon vivier, hein, il y avait des personnes ressources, on avait de super trolls à ce moment-là. Mais la baïa, ça serait exactement la même chose. Et il y a même, à un moment donné, on peut atteindre le point Godwin. Vous avez déjà entendu parler du point Godwin? Non? Ah, scientifiquement, c'est une théorie qui a démontré que des gens peuvent polluer le débat et peuvent même en arriver à avancer des arguments qui prennent un ancrage dans la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est le lobbying juif, c'est bien connu, la France est divisée. Quand on a parlé du coronavirus, c'était incroyable parce que les médias s'en faisaient le relais de ce point Godwin. Vous aviez jusqu'à avoir un comparatif des anti-vaccins avec l'étoile jaune. Vous vous souvenez de ce débat, de cette polémique? Eh bien ça, c'est assez caractéristique des trolls. Et le point Godwin, c'est quand vous prenez des arguments faisant un ancrage dans la Seconde Guerre mondiale. Vous avez une autre pratique de cyberharcèlement qui, elle, va profondément être motivée par une idéologie. Ce qui fait que les gens ne se rendent pas forcément compte ou ne mesurent pas à quel point cette malveillance peut être fatale pour leurs victimes. Alors, idéologiquement, vous pouvez avoir des pratiques de cyberharcèlement sur des sites de haine. Ces sites de haine, on accuse, voilà, on vous a mis démocratie participative qui a fermé depuis, mais il y en a pléthore des sites, que ce soit ultra-droite, identitaire, nationaliste, vous en avez plein. Dans les pratiques de cyberharcèlement, vous avez tout ce qui concerne les e-rumeurs. Moi, j'adore les phénomènes de rumeurs. En plus, les phénomènes de rumeurs, de tout temps à jamais, ça a toujours existé. Parce qu'une rumeur, elle est essentielle au bon fonctionnement du groupe. Il nous est tous arrivé, à un moment donné, de critiquer quelqu'un. Bon, on m'a dit, j'ai appris par un tel, pas vraiment vérifié. Et vous allez vous rendre compte que quand vous critiquez une personne, en face de vous, vous pouvez avoir quelqu'un avec qui vous n'avez pas forcément d'atome crochu, mais qui va partager le même sentiment que vous. Et la rumeur, elle est extrêmement intégrative pour ceux qui la pratiquent. La théorie du bouc émissaire, ça vous en avez déjà entendu parler. On a tous un con dans le service. Mais c'est ça, c'est la théorie du bouc émissaire, la rumeur. Avoir quelqu'un que l'on déteste collectivement, ça permet au groupe de se renforcer. Et de la même manière, vous allez retrouver ces mécanismes psychologiques dans la rumeur en ligne. Les deepfakes. Alors, c'est vrai qu'on s'était posé la question avec Jérôme de savoir, est-ce qu'on vous met le pape avec la doudoune blanche? Ou est-ce qu'on vous met plutôt la deepfake avec cette connotation sexuelle? Bon, on a trouvé que c'était plus porteur, celle-ci, pour vous. plus porteur parce que beaucoup de deepfakes dans les pratiques de cyberharcèlement visent ou à l'émulation de la voix ou des mises en situation, notamment pornographiques. Et il y a plein de victimes qui vont déposer plainte parce que leur visage a été réapproprié dans des vidéos porno. Ce ne sont pas elles. Ces vidéos ont été diffusées. Elles savent que c'est faux, mais c'est d'un tel réalisme qu'il y a même eu des victimes qui se sont étonnées en se disant « Je ne saurais pas que ce n'est pas vrai, je serais convaincue que c'est moi. » Le pouvoir. Une motivation criminologique, somme toute, est très, très classique. Dans les pratiques de violence en ligne, quelque chose de détestable, c'est le validisme numérique. Vous avez des challenges en ligne qui existent, où on va se regrouper collectivement pour se moquer des personnes en situation de handicap. Vous avez des challenges qui visent, par exemple, dans ce cas précis, à imiter des personnes qui souffrent du trouble du spectre de l'autisme. C'est drôle de se moquer des personnes qui ont un problème moteur, psychologique. En tout cas, suffisamment pour que certains exercent cette violence en ligne. Le slut-shaming. Elle s'est fait violer à 4 heures du matin en même temps. Portait une mini-jupe. Hein. Un petit peu cherché. Il nous reste combien de temps ? D'accord. Slut-shaming, c'est assez misogyne. On est habitué, mesdames. L'ostracisme numérique, c'est quand... C'est dommage, parce que la dernière partie, c'est là où on allait parler de sexe. J'accélère. L'ostracisme numérique, vous savez, c'est quand un groupe WhatsApp a été constitué et sciemment vous a laissé en dehors. Ah mince, j'ai oublié de te mettre dans la boucle. Oui, mais là, c'est la 8e fois. C'est l'ostracisme numérique. Je fais rapidement sur le sexe, ça vaut le coup quand même. Le sexting. Envoyer des sextos. Alors, Internet a ouvert de nouveaux espaces de sociabilité et nous a permis de nous découvrir également de nouvelles pratiques sexuelles. Les sextos en font partie. Envoyer un message. Alors avec Jean-Christophe, on a travaillé toute la dimension des sextos pour savoir quelles étaient les motivations profondes qui pouvaient amener les gens à user de sextos. Mais envoyer un message pour séduire, maintenir la flamme dans une relation un peu distanciée, c'est une chose. Mais il peut devenir une pratique de cyberharcèlement à partir du moment où vous n'avez pas consenti à recevoir des propositions ou des insinuations. C'est du sexting coercitif, pardon. Typiquement, qu'est-ce que tu portes ? Alors, je ne sais pas quel est l'exemple qui est pris là, mais typiquement, t'as mis quoi comme sous-vêtement ? Arrête, je suis au travail. Allez, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que t'as mis comme sous-vêtement ? Ça me gêne, je suis en réunion. Et on insiste, et on insiste. Ça, c'est dans le cadre d'une relation qui peut être consentie. Mais il y a des relations qui ne sont même pas consenties. D'autres formes de pratiques de cyberharcèlement, les creepshots. C'est devenu tellement démocratisé que vous retrouvez même cette thématique des creepshots sur les sites pornographiques. Voler à la dérobée des photos de femmes. Alors les creepshots, ça peut être, mesdames, ça peut nous arriver. Nous sommes en jupe, en robe. Vous avez vu ma position ? J'ai les jambes croisées. Mais c'est vrai que si je suis en robe, mes vêtements peuvent remonter sur ma cuisse. Eh bien, vous avez des personnes cyber-malveillantes, je ne m'en rendrai pas compte, qui vont prendre des photos et qui vont les collectionner. Alors, ça peut être les femmes en legging, ça peut être en fonction de votre origine, de votre âge. Et ça s'est tellement démocratisé qu'on retrouve cette nomenclature sur les sites pornographiques. L'upskirting, C'est des creep shots, mais pris sous la jupe. Et là, il y a quand même un monde, parce que on a légiféré sur l'upskirting, mais on n'a pas encore légiféré sur les creep shots. Pourtant, c'est la même chose. Hein. Un cliché coquin, volé à la dérobée, sous la jupe. Elle ne s'est pas rendue compte. Et c'est vrai que la plupart des victimes, d'ailleurs, ne savent pas.
C'est le gros problème que l'on a, nous. C'est quand on doit traiter des analyses de téléphones, d'appareils photo numériques, voilà, j'en passe. C'est très compliqué pour nous de pouvoir identifier les victimes. Et on sait bien que lorsqu'on amène des victimes au procès pénal, ça a beaucoup plus d'impact au niveau de la décision pénale.
Et on peut même retrouver en psychopathologie criminelle des collectionneurs qui vont avoir des photos sur ce que l'on appelle des fétiches attachants et des fétiches enveloppants. Donc des collectionneurs qui vont rechercher des fétiches attachants, des porte-jartelles. Ah, eux, c'est leur kiff, prendre des photos de porte-jartelles. Puis vous pouvez également avoir des collectionneurs sur des fétiches enveloppants, la culotte. Généralement, ils ont un souci avec leur maman. Je ne voudrais pas faire la psychanalyse de bas étage, mais c'est souvent un souci avec maman. Vous avez la dick pic. C'est l'une des pratiques de cyberharcèlement plus régulièrement reçue. D'autant plus que si vous avez un Apple et que vous configurez mal vos paramètres de sécurité, bien on peut vous détecter à moins de 9 mètres. Et dans cette salle, faudrait. Bon, on n'a plus le temps. Sinon, ça aurait valu le coup qu'on vous envoie une dick pic pour voir combien l'aurait reçu ici. À titre expérimental, bien évidemment. Revenge porn, la grande classique. Alors, revenge porn, pareil, la terminologie, c'est terrible. Vous avez vu comment ces études empiriques anglo-saxonnes impactent la manière dont on perçoit les pratiques de cyberharcèlement. Revenge porn, non, en fait, c'est une diffusion de vidéos intimes non consenties. Ça, c'est la terminologie française qui voudrait qu'on le traduise de cette manière-là. Parce que revenge porn induit qu'il y a une revanche. On se venge. On se venge de quoi ? Au contraire, c'est encore une nouvelle forme, ce que relèvent les études de genre, de culpabiliser les victimes. Or, il s'agit juste de quelqu'un qui est cybermalveillant et qui a utilisé des photos qui ont certes peut-être été consenties dans l'intimité à être enregistrées, mais certainement pas à être diffusées. Ben, les perspectives cybernétiques, oui. Avec plusieurs.
Voilà. Alors, c'est simple. On fait de la recherche, mais on fait de la recherche en vue de l'utilité. Et maintenant qu'on a déterminé et qu'on a compris ces pratiques, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est ce qu'on appelle en renseignement de la remédiation, au sens étymologique de porter remède à quelque chose. Donc on ne parle pas initialement de répression, on a beaucoup parlé effectivement d'enquête, de procès pénal, mais la remédiation, ce n'est pas uniquement ça. Du moment où on a compris ces phénomènes, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? On est capable, dans un premier temps, de les détecter. C'est-à-dire qu'on est capable de donner des typologies qui nous permettraient, par exemple, de développer des algorithmes en ligne pour détecter systématiquement ces comportements-là. Ça peut être, alors vous l'avez aujourd'hui sur les filtres anti-arnaque que vous avez sur Internet, où on vous dit, attention, c'est probablement une arnaque, est-ce que vous consentez à effectuer ce paiement ou est-ce que vous consentez à aller sur ce site ? Ça pourrait être le cas, par exemple, si vous recevez des images, comme des dick pics, par exemple, qui sont des images qui sont potentiellement malveillantes, en disant, est-ce que vous consentez à recevoir cette image ? Ce sont des filtres et ce sont des moyens qui permettraient, par exemple, de protéger les gens et de réduire la surface d'exposition des victimes. Autre élément relatif à ces éléments de détection, c'est de mettre les gestionnaires de sites devant leurs responsabilités. La loi de confiance en l'économie numérique responsabilise les gestionnaires de sites. Tout à l'heure, je vous parlais de jeuxvideo.com. Jeuxvideo.com est un site qui est faiblement modéré. Vous vous en rendez compte pour ceux qui y vont, puisqu'en fait, il s'est dit absolument n'importe quoi. Et tout le monde peut y dire n'importe quoi. Mais en revanche, si vous attirez l'attention sur un contenu qui a un caractère illicite, le gestionnaire de site devient responsable. Donc si on arrive à trouver les algorithmes sur la base de cette compréhension qui permettent de détecter de façon sérielle les comportements illicites, nous pouvons responsabiliser les responsables de site et les obliger à enlever ces contenus. Alors, détecter, caractériser. Le deuxième point, c'est la caractérisation. Cette compréhension-là permet de pouvoir démontrer, dans le cadre d'un procès pénal, mais également dans le cadre d'une explication, le caractère anormal de la chose. Nous n'avons pas, vous l'avez vu, de définition juridique et scientifique stable de la notion de harcèlement. En revanche, il est possible de démontrer devant un magistrat le caractère tout à fait anormal et le processus psychologique qui porte atteinte à la personne dans le cadre d'un processus de harcèlement. Et au regard de tous les exemples qui vous ont été donnés, vous pouvez voir qu'en fait, chaque fois, ce sont des configurations qui sont des configurations particulières et qui en plus sont adaptées aux circonstances de la relation entre l'auteur et la victime. Donc, détecter et caractériser, ce sont vraiment les deux choses pratiques que nous pouvons attendre de ce projet. Vous avez ici un petit QR code qui n'est pas une arnaque, qui vous permet d'aller sur le site cybernétique. Vous avez ces 40 projets, ces 40 fiches de cyberharcèlement qui sont décrites et qui permettent de faire de la sensibilisation auprès des victimes. Et ça aussi, c'est une grande utilité, puisqu'en fait, ces comportements qui sont des comportements anormaux, le fait de pouvoir sensibiliser les populations à leur caractère anormal incite également au dépôt de plainte et au signalement. Voilà. Sauf si vous voulez rajouter quelque chose, je pense que nous avons terminé. Peut-être nous soumettre à une séance de questions.
J'ai 30 petites secondes, juste voilà. Au niveau de cybernétique, moi, ce que je suis très très fier, je voudrais juste souligner ce qu'on a fait avec les élèves de Marlène. Le but, vous avez bien compris, c'est de pouvoir lutter contre toutes les formes de violence en ligne. On a deux problèmes. Un, le vôtre, votre comportement, et on a le nôtre également. Il faut absolument que nous, on puisse améliorer notre pratique professionnelle, nous, gendarmes, dans le cadre de la collecte de la trace, de la preuve numérique. Lorsque j'ai montré à Marlène tous les problèmes de vide juridique qu'on avait, Marlène vous a parlé de la jeune fille qui a somatisé, qui a perdu l'usage de ses jambes et qui a fait 3 tentatives de suicide. Il n'y a jamais eu de procès. Pourquoi ? Parce que le papa, dans un bon réflexe, malheureusement c'est un bon réflexe de père, mais c'est un très mauvais réflexe pour nous, a effacé toutes les données de son téléphone. Et donc on n'a pas pu trouver les traces. Les traces, je n'ai pas pu les interpréter et en faire une preuve, ce qui va persuader l'esprit d'une vérité pour un magistrat et lui montrer qu'effectivement, comme disait le colonel, on caractérise auprès du magistrat et il ne peut pas dire « ben non, je ne savais pas, oui, que je comprends mieux, les voilà ». Et donc on a développé une application qui va être déployée pour tous les gendarmes de France, enfin on a bon espoir, qui sera déployée pour tous les gendarmes de France de façon à pouvoir améliorer considérablement la collecte de la trace de façon à pouvoir en faire une preuve et qu'on ne se rate pas à ce niveau-là. Deuxième projet, Safe NTech, S-A-F-E NTech, N-T-E-C-H, c'est un site internet un peu comme cybernétique que vous pouvez trouver sur internet et qui va vous accompagner dans une amélioration continue de votre hygiène informatique. Tous les gens, et je vous remercie, qui ont levé la main quand j'ai posé la question, quels sont ceux qui n'ont qu'un seul mot de passe pour tout ? Je vous invite à aller sur Safe InTech et vous allez voir que vous allez considérablement améliorer votre hygiène informatique. Voilà.
Un grand merci. Et des questions ? Do we have some questions ?
Donc, si j'ai bien compris, vous préconisez de responsabiliser les plateformes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ces plateformes, si elles deviennent responsables de ce que les gens écrivent, elles délitent tous les posts limites, et du coup que ça soit une limite à la liberté d'expression? Parce que je pense à la loi Avia, qui remonte à quelques années, qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel à propos justement de la liberté d'expression. Merci.
Oui, bien sûr. Alors, c'est très clair. De toute façon, Internet, c'est ça. C'est à la fois un espace de liberté et en même temps, c'est un espace où les gens doivent être protégés et on doit assurer ce compromis sécurité-liberté en permanence. Pour répondre à votre question, en fait, là, on fait ça à droit constant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les responsables de sites sont déjà responsables de ce genre de choses. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, sur n'importe quel réseau social, la possibilité d'appuyer sur un bouton pour dire « attention, signaler le comportement de cet individu sur ce réseau social ». Et c'est les modérateurs, justement, au regard de leur politique, qui vont pouvoir déterminer ce qui, au regard des conditions générales d'utilisation du site, est normal ou anormal. La seule chose, c'est que nous, l'information que nous apportons à ces sites, c'est de leur définir ou de les aider à penser ce qui est un comportement de cyberharcèlement. Si vous avez quelque chose qui est par exemple de l'apologie de terrorisme, c'est peut-être plus facile à caractériser. Si vous avez de la pédopornographie, par exemple des images pédopornographiques, c'est plus facile à caractériser pour un gestionnaire de site. En revanche, un comportement de cyberharcèlement, vous l'avez vu, c'est quand même souvent beaucoup plus subtil. Les insultes en ligne, par exemple, ça c'est quelque chose qui pourrait être éclusé très rapidement, et notamment les insultes raciales. Parce que tout simplement, ben, on part du principe qu'elles n'ont pas à être évoquées et que c'est un contenu par nature illicite. Après, il y a des choses tout simplement qui seront le fruit d'un... Donc, moi, ce dont je vous parle, hein, c'est d'écluser 90% de ces mauvaises intentions en ligne. Hein. Ce n'est pas de faire une police des consciences, mais tout simplement de dire, en fait, toutes ces choses-là, une insulte raciste, comme je vous le disais, c'est des choses qui sont dégagées automatiquement. Après, il y a des choses qui doivent être analysées, et ces choses qui sont analysées, elles nécessitent soit un comportement de la victime, c'est-à-dire le dépôt de plainte ou un signalement. Elle dit, moi, je considère que ça, c'est du harcèlement. Et le gestionnaire de site lui-même pourra décider ou pas d'invalider soit le compte, soit la conversation. Voilà. Mais ça, c'est des choses qui existent déjà en réalité. La seule chose, c'est que personne ne le fait. Et l'idée, c'est en fait d'automatiser un petit peu le processus sur la base des choses qui ont été objectivées. Voilà. Mais il n'est pas question de faire une police de la conscience.
Par rapport à l'exemple que vous évoquiez tout à l'heure de microcrédit effectué avec une usurpation d'identité, comment est-ce que concrètement la gendarmerie ou la police enquête là-dessus ?
On travaille, on va contextualiser, c'est-à-dire qu'on va s'attacher à recueillir la plainte de la victime, bien évidemment, qui va nous dire, voilà, j'ai découvert, on m'a signalé tel microcrédit à tel endroit. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la recette de famille, parce que je ne voudrais pas donner de mauvaises idées, enfin de mauvais exemples et tout ça, mais disons que par voie de réquisition judiciaire, donc on a des actes de police judiciaire qu'on peut mener. On va requérir, par exemple, si c'est Boursorama, voyez, on va requérir les services de Boursorama et on va tenter de déterminer la ligne de temps des faits et obtenir tous les logs de connexion depuis ce microcrédit. Et à partir de là, on obtient des petits bouts de ficelle, ni plus ni moins, qu'on va tirer jusqu'à l'absolu et jusqu'à obtenir l'identification réellement de l'ordinateur à partir duquel l'exaction a été commise. Voilà. On a bon nombre d'outils, bon nombre de logiciels qui nous permettent de pouvoir faire... Moi, ça fait 20 ans. Il y a 20 ans, on m'a dit, tu vas analyser un téléphone. Je n'y aurais jamais cru. Maintenant, on arrive à analyser des téléphones. Si vous avez des Apple, on arrive même à débloquer des Apple. On arrive même à récupérer des fichiers effacés sur des téléphones et tout ça. Donc, on a tant des outils qui sont juste impressionnants. Et on a un arsenal juridique qui nous permet, ces traces, de pouvoir les contextualiser et de, par voie de réquisition, de pouvoir les faire vivre en quelque sorte et d'obtenir encore d'autres traces qui, pour le coup, ne sont pas du tout accessibles à la personne mise en cause, voilà, et dont elle n'a pas possibilité de pouvoir effacer. Parce qu'il faut considérer qu'une trace, il y a une trace visible, il y a une trace cachée, il y a une trace cachée volontairement, il y a une trace cachée involontairement, il y a l'interprétation d'une trace. Enfin, il y a bon nombre d'exemples qui font que nous, notre boulot, c'est avant tout, j'irais, un défi technique. Voilà, parce qu'il faut, on est sur du binaire, quoi. Donc, c'est pas juste j'analyse le téléphone, j'ai la liste des SMS, j'ai la liste des images, j'ai la liste des mails. Ce n'est pas ça qui nous intéresse le plus. Si vous êtes un peu curieux, et je vous invite à le faire, vous allez sur le site Sans, S-A-N-S. Ils ont régulièrement des infographies de tous les artefacts qu'on peut trouver sur vos différents téléphones. Vous allez voir, c'est juste impressionnant, quoi. Les bases de données, les bases SQL, les bases de ceci, les bases de cela, que nous, on va chercher, on va collecter et on va interpréter de façon à pouvoir apporter quelque chose au procès, quoi, aux collègues et tout ça. Voilà. Donc on dispose de pas mal de choses sur lesquelles on peut directement influer pour faire en sorte qu'on concourt grandement à la manifestation de la vérité.
Voilà. Et sur les microcrédits, au-delà de l'aspect technique, vous avez tout simplement l'aspect également économique, donc sur le principe follow the money, c'est-à-dire qu'en fait, du moment où vous avez des versements qui ont été faits pour le microcrédit, ben en fait, il vous suffit d'aller regarder les comptes sur lesquels ça a été versé, et puis s'il y a des cascades de comptes, de pouvoir en assurer la traçabilité.
On a possibilité de faire de ce qu'on appelle des recalls, donc on bloque les fonds là où ils sont. Si par exemple l'argent a été versé sur un pays à législation plus que permissive, enfin voilà et tout, on a possibilité, grâce à TracFin, de faire un recall et de bloquer les fonds dans l'attente d'une décision judiciaire française en disant, voilà, cet argent-là, ben, ça sort d'une escroquerie, on les récupère.
Merci pour la conférence. J'ai une question. Pourquoi est-ce que vous considérez le deuxième commentaire dans les slides avant sur, il me semble que c'était YouTube, où ça disait que c'était inversement proportionnel à la qualité de la chaîne. Pourquoi est-ce que vous considérez ça et si vous le considérez comme cyberharcèlement ou potentiel cyberharcèlement. Voilà, merci. C'était encore avant, 5-6 slides avant. C'était, il y avait trois commentaires, il y avait GG, FDP, et ensuite il y en avait deux autres, donc GG, FDP, ok. Et ensuite le deuxième, il n'y avait pas d'insulte proprement écrite. C'était encore... c'était bien avant. Oups.
Après, pour les notions d'insulte, alors je sais que la question avait déjà été posée lors d'une précédente conférence, le degré de l'insulte, c'est très compliqué de pouvoir répondre. Parce que déjà, je pense qu'il y a un vide au niveau de la justice, c'est qu'on ne connaît pas le degré de l'insulte. On ne se connaît pas. On sort de la conférence, je vous recroise, je vous insulte. Est-ce que votre question, je l'ai trouvée bonne, pas bonne, enfin peu importe, enfin voilà, je vous insulte. Vous allez très mal le prendre, et c'est tout à fait normal. D'accord. Pour autant, vous pouvez discuter avec un de vos camarades, à droite ou à gauche, sortir, avoir exactement la même réaction, en disant putain, c'est vraiment une conférence de merde, je sais pas quoi, il t'insulte, en disant non, mais ça va, ou je sais pas quoi. Vous n'allez pas du tout avoir le même degré de clé de lecture, parce que le contexte est complètement différent. Donc, moi, ce que j'aime à dire, c'est comment vous pouvez estimer qu'effectivement, on est sur le ressort de l'insulte. C'est pas moi qui vais le décider, c'est la victime. Dès lors que la victime se sent insultée, dès lors que la victime se sent diffamée, elle est tout à fait en droit de pousser la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie et de dire « je suis désolé, mais là, je me sens insultée, je me sens diffamée, je dépose plainte ». Et c'est après le parquet, donc le procureur de la République, qui décide si effectivement il poursuit ou pas. Mais nous, on n'est pas juge en quelque sorte. Voilà. Là, on rapporte simplement des faits en disant « voilà, bon, ça peut effectivement relever de l'insulte. Voilà. On va contacter peut-être la modération, on va contacter peut-être le site internet en disant « voilà, attention et tout ça ». Quand bien même, on n'a pas de prérogative particulière en dehors d'une saisine judiciaire. De ma propre initiative, si je vois quelque chose sur internet, je vous le dis très honnêtement, je ne peux pas déontologiquement appeler le site internet en disant « attention, il y a ça ». Voilà. Donc on a des outils. Vous avez des outils. Est-ce que vous savez comment on fait un signalement sur Internet? Vous trouvez un commentaire comme ça, là. Alors, peut-être pas le troisième.
Non, disons le premier. FDP, c'est assez explicite. C'est juste avant qu'on parle de Pharos, je pense que tu allais sur... juste pour repréciser, là, c'est un streamer. C'est même pas un streamer, c'est... il fait tout, il est sur YouTube et il stream, qui avait produit une vidéo et qui a reçu pas loin de 800 commentaires négatifs. Il a été victime d'un raid numérique organisé par que quelques-uns. Mais je voulais vous montrer la pluralité des commentaires discréditant, disqualifiant, stigmatisant qu'il peut recevoir. Alors, le fils de pute, on tombe directement, on bascule sur une injure. Mais derrière, vous pouvez avoir des phrases un peu alambiquées qui suscitent pas de l'admiration, mais qui au moins attestent d'un certain niveau, vidéo d'une qualité inversement proportionnelle au nombre d'abonnés que cette chaîne possède. C'est recherché quand même comme propos dénigrants. Bon, après, tu ne sais pas filmer, on voit que... Et en fait, c'est simplement un screen de trois commentaires avec trois niveaux dissociatifs de ce que peut-être des éléments violents pour une victime qui se sent touchée dans son intégrité. Mais là, en l'état, si on doit être sur de la qualification, on retiendra que le fils de pute. Et après, Pharos, je ne sais pas si tu veux, parce que tu...
Ouais, vous pouvez, au travers de l'utilisation que vous en faites d'Internet, vous pouvez un jour tomber sur une image pédopornographique, un signalement, être approché par un pédophile. Enfin, voilà, bon, bref. Vous n'êtes pas foncièrement victime, vous êtes juste spectateur. Il y a un site Internet qui existe, donc ça s'appelle Pharos, Pharos, que vous retrouvez également sur signalementinternet.gouv.fr. Vous pouvez faire dessus des signalements. Vous pouvez même faire des signalements de façon anonyme. Simplement dire, j'étais là, à tel endroit, tel jour, à telle heure, j'ai vu ça. Vous le signalez. Derrière, c'est des policiers, des gendarmes. Ils prennent le renseignement, ils vont vérifier l'information. Et si, effectivement, ça caractérise une infraction particulière, Ils vont, par voie de réquisition, identifier l'adresse IP et ils vont déléguer comme ça à l'officier en charge de la police judiciaire de chaque département et il va dire voilà, on nous a reporté ça, je confirme, j'ai fait un PV, crac. Et donc nous, on est directement contactés et on fait une procédure judiciaire par rapport à ça.
Est-ce qu'on a encore une dernière question ?
Dans le cadre du cyberharcèlement, pourquoi est-ce que Gmail est capable de protéger ses utilisateurs, enfin d'empêcher la traçabilité des utilisateurs qui envoient des mails qui sont du harcèlement, alors que vous dites que la plupart des cyberharceleurs font partie de l'entourage direct de la personne qui est harcelée et que la plupart, 90% je crois, des personnes qui sont harcelées n'iront pas déclarer ça à la police et donc ne feront pas appel à la police pour tracer l'IP de la personne.
Il y a plusieurs questions.
Il y a plusieurs questions. La première, Gmail, Google anonymise les cyberharceleurs. C'est ça que vous avez dit, non ?
Oui, il m'a semblé que...
Alors, pas ma connaissance. Hein. Ils anonymisent l'adresse IP d'origine. Mais ça, c'est propre à pas mal de sites Internet maintenant, justement, pour éviter tout ce qui est fait de doxing, qui peuvent être inversés et faire que, en sorte que vous pouvez nuire à la bonne vie mentale d'une personne ou n'importe quoi. De plus en plus de sites, maintenant, vont complètement anonymiser les informations. Donc, vous pouvez créer un site Internet. Je vais donner un exemple. Ça n'a rien à voir avec votre question, mais vous allez vite comprendre. Vous pouvez très bien créer un site Internet donc, et demander au nom de domaine de dire, voilà, je veux l'appeler, je ne sais pas, 3 rue de la poupée qui tousse.fr, je ne sais pas quoi. Vous allez donner votre nom, votre prénom, votre adresse. Et ça, c'est ce qu'on appelle le registrar. Vous pouvez très bien demander à celui dont vous allez obtenir ce nom de domaine-là de dire « je veux rester anonyme ». Et donc là, tout est anonyme. Et simplement, c'est le registrar que nous, on doit requérir pour savoir qui a créé ce site Internet-là. Et Gmail et Google est exactement dans la même logique. Et au lieu de mettre l'adresse IP d'origine, il va simplement mettre un message ID. Donc c'est une suite binaire hexadécimale. Et c'est ce numéro-là que nous, on doit capter. Donc, d'où l'application dont on a parlé et dont on a créé. On récupère ce message ID et ensuite, par voie de réquisition, on identifie l'adresse IP et on identifie la personne. Mais à ma connaissance, j'ai rarement eu de retour négatif quant à l'identification d'un auteur de cybercriminalité, quel qu'il soit. Jamais. Et votre deuxième question, c'était, pardon ?
C'était plutôt en tant qu'utilisateur. Et la deuxième question, enfin, il n'y avait qu'une question, je crois.
Oui. Vous avez parlé de la reportabilité aussi, et de savoir pourquoi il y avait une aussi faible reportabilité. Lutter contre un phénomène criminel ou l'appréhender, c'est quand même quelque chose d'assez difficile, parce qu'il y a ce qui se passe, il y a ce que vous voyez, parce qu'il y a des infractions dont vous êtes victime et que vous ne voyez pas. Par exemple, au quotidien, vos banques empêchent des paiements sur vos comptes, hein, tout simplement par des systèmes de scoring qui enlèvent des infractions type, parce qu'à 100%, on sait que cette configuration-là est une configuration infractionnelle. Donc il y a des choses qui se passent, que vous ne savez pas, qui relèvent de l'infraction. Il y a ceux dont vous vous rendez compte, et vous ne voulez pas déposer plainte, et puis ensuite, il y a ceux dont vous voulez déposer plainte, qui est pris en plainte. Il y a ce qu'on arrive à élucider, il y a ce que la justice peut juger, et il y a ce que la justice peut condamner. Donc vous voyez le système d'attrition, c'est ce qu'on appelle un entonnoir pénal. Sur la décision de la victime de déposer plainte, bah, c'est quelque chose qui vous appartient. Et c'est à nous d'avoir conscience des volumes. Par exemple, sur les agressions sexuelles sur les femmes, moins de 10% des femmes déposent plainte. Sur les violences sur conjoints, on est entre 5 et 10%. Sur les vols de véhicules, on est à 97% de plaintes. C'est normal, parce qu'un vol de véhicule, vous avez besoin de le déclarer à l'assurance. Sur une tentative de vol de véhicule, on est à 25% de dépôt de plainte. Voilà. Et ça, en fait, c'est tout simplement la décision de la victime qui fait son équation entre ce qu'elle considère comme grave et est-ce qu'elle a envie de passer du temps, quel est l'effet qu'elle veut obtenir et quelles sont les chances d'élucidation, puisqu'elle anticipe souvent aussi un petit peu ça. Voilà.
Juste, votre prénom, c'est ? Pardon ? Maude. Moi, j'aurais juste une question à vous poser. Tout à l'heure, on vous a demandé Combien de personnes parmi vous ont reçu une dick pic? Est-ce que vous pourriez relever la main, s'il vous plaît? Combien ont reçu une dick pic non consentie? D'accord? Combien ont déposé plainte? Eh bien, ça, je crois qu'on est au cœur de votre question. La banalisation de la violence, ça, c'est aussi un phénomène social qu'il faut reconnaître. Il ne s'agit pas du tout de faire la morale. Mais tant qu'on acceptera certains phénomènes de violence en les banalisant...
Ça touche au tabou. C'est très compliqué pour une femme victime de violences sexuelles, victime de violences intrafamiliales. Vous recevez une DPIC, c'est très compliqué de pousser la porte d'une gendarmerie, vous ne savez pas sur qui vous allez tomber, et de dire, voilà, j'ai reçu ça, je veux absolument déposer plainte. Voilà. Et c'est ça, c'est sur ce biais-là que nous, il faut absolument qu'on puisse travailler l'accueil, le projet tel que cybernétique, de façon à pouvoir améliorer considérablement tous ces aspects-là, tant pour vous que pour nous.
Un grand merci à nos invités. Et s'il y a des questions, venez.